الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes très chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous voici donc dans l'une des soirées de ce mois béni et nous invoquons Allah Azza wa Jalla après avoir participé à la prière de Tarawih. Nous invoquons le Seigneur subhanahu wa ta'ala qui puisse exaucer nos invocations, nos prières, notre jeûne surtout et nos veillées. Et vu que nous sommes dans l'une des soirées de ce mois béni, j'ai trouvé tout à fait opportun de traiter d'un sujet qui nous interpelle tous et toutes, parce que le contexte s'y prête. Et j'ai dénommé ce sujet, donc les assemblées de la foi, Majalis al-Iman, car effectivement nous sommes ici, nous tous et toutes, nous sommes effectivement réunis dans une assemblée des assemblées de la foi. Et ce qui m'a poussé à choisir ce thème et à opter pour celui-ci, il y a trois raisons principales. La première, c'est comme je viens de l'indiquer, nous sommes dans une soirée de Ramadan, et dans la plupart de ces soirées, notre assemblée était une assemblée de foi, de rappel. La deuxième raison, c'est que nous avons tous et toutes, en tant que croyants et croyantes, nous avons tous besoin de rappel. Et nous nous rappelons de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit « وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ » et rappel car le rappel profite aux croyants. Nous avons tous et toutes besoin de ce rappel. Nous avons tous et toutes besoin de se ressourcer, de se remettre en question. D'où l'importance de ces assemblées qui nous réunit en cette soirée. Parce que nous vivons une époque de stress, une époque où les préoccupations de ce bas monde ont pris le dessus sur nos affaires, sur notre spiritualité, sur notre foi. D'où l'importance de se réunir. D'où l'importance de trouver cette quiétude et ce repos et cette sérénité que nous ne pouvons retrouver et que nous ne pouvons trouver que dans ces assemblées. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'un compagnon dénommé Abdullah ibn Rawaha, ce compagnon, lorsqu'il marchait dans les rues de Médine et qu'il croisait quelqu'un, il le prenait par la main et lui disait « Ta'ala bina nu'min sa'a » « Viens avec moi, nous allons nous arrêter un instant, une heure, à travers ou durant laquelle nous allons penser à la foi, nous allons penser à Allah Azza wa Jal. » Ces gens-là, ces hommes et ces femmes ont compris que dans la vie, dans la journée, dans le quotidien, il y a un moment où il faut s'arrêter. Il y a un moment où il faut s'arrêter pour se ressourcer, pour se remettre en question. Et c'est à ça que servent d'ailleurs les assemblées de la foi, Majalis al-Iman. On ne se réunit pas pour passer le temps ou pour essayer de se distraire, mais le but de ces réunions, de ces assemblées, de ces rencontres, c'est de se remettre en question, de se ressourcer, de rechercher cette parole qui va peut-être nous sauver le jour de la comparution devant notre Créateur subhanahu wa ta'ala. Et c'est à travers ces rencontres, c'est à travers ces assemblées, mes chers frères et sœurs, que le croyant trouve son apaisement, sa quiétude. C'est là que son cœur s'apaise. C'est là qu'il trouve la paix, c'est là qu'il trouve la paix intérieure qui nous manque tant en ces temps de stress, en ces temps de bousculade où nous sommes bousculés par nos occupations au quotidien et qui nous font oublier quelquefois l'essentiel de notre existence, à savoir la foi en notre Créateur subhanahu wa ta'ala et surtout notre retour vers lui, exalté soit-il. La troisième raison qui m'a motivé à choisir et à opter pour ce sujet, c'est que nous avons tous et toutes l'habitude de se retrouver par la force des choses, de se retrouver dans des assemblées, qu'il s'agisse d'un mariage ou d'un événement triste comme un décès ou d'une naissance ou tout simplement d'une invitation. Et vous allez voir par après, la question va se poser, dans quel type d'assemblée pouvons-nous classer ces rencontres sociales auxquelles nous assistons à travers nos différentes soirées, rencontres familiales, amicales, fraternelles, etc. Ce sont les trois raisons, mes chers frères et sœurs, qui m'ont poussé à choisir ce sujet en ce mois béni, en cette soirée bénie, car nous sommes avec certitude, nous sommes l'assemblée de la foi aujourd'hui et en cette soirée. Il y a trois types d'assemblées, sachez-le. Il existe trois types d'assemblées. La première assemblée, ou le premier type d'assemblée, ce sont les assemblées de la turpitude, de l'insouciance et de l'oubli. Ce sont ces assemblées durant lesquelles, malheureusement, certains parmi nous se laissent aller dans la médisance, dans la calomnie, dans le faux témoignage, dans le mensonge, dans les moqueries, dans les plaisanteries déplacées, etc. Le deuxième type d'assemblée, c'est ce qu'on appelle les assemblées majalis ad-dunya, les assemblées de ce bas monde, où toutes les discussions, si ce sont les hommes, eh bien, ça parle de voitures, de maisons, de voyages, de terrains, de football pour certains, d'argent. Si c'est les femmes, si ce sont les femmes, eh bien, quant à elles, elles parlent d'autres sujets, de ce qu'ont fait les voisines, des enfants, de ce qu'elles ont acheté. L'une a acheté tel salon, l'autre ne l'a pas. Et ça, on y reviendra par après, inshallah. Donc, on demande à nos frères et sœurs un peu de patience par rapport à ce qui va être soulevé dans les temps prochains durant cette conférence. Et le troisième type d'assemblée, c'est Majalis al-Dhikr wal-Iman, c'est l'assemblée du rappel et de la foi. C'est la meilleure assemblée, la plus noble auprès d'Allah Azza wa Jal. C'est l'assemblée durant laquelle nous nous fondons tous en un seul corps. C'est l'assemblée durant laquelle nous oublions ce bas monde et ses affaires, et nous nous consacrons entièrement à ce rappel qui cultive en nous la piété, la foi et la proximité d'Allah Azza wa Jal. Ce sont les trois types d'assemblées. Apprenez-les, retenez-les, et comme disait ce savant et ce poète, il disait « Fahfadhu wa kullu hafidhin imam ». Retenez, car chacun, chaque personne qui retient, devient un exemple pour autrui. Ainsi donc, les assemblées de la foi qui constituent le thème de notre intervention, il en existe pas mal. Le sermon du vendredi, par exemple, Khutbatul Jumu'ah, c'est une assemblée de la foi. Pourquoi? Parce que nous sommes tous réunis en un même lieu. Nous observons tous le silence et nous tendons tous l'oreille attentivement pour écouter le discours de l'imam et pour créer en nous ce rappel qui nous servira. Wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Aussi, la conférence ou un cours, comme celle-ci par exemple, comme cette conférence, ou un cours qui vous est donné et qui se rattache à la foi et au rappel, c'est aussi une assemblée de la foi. Ou encore lorsqu'on se réunit juste entre nous, comme le faisait ce compagnon Abdullah ibn Rawah et bien d'autres. Et ce compagnon a institué une tradition, on va dire une sunna hasana, une bonne tradition sur laquelle vont suivre et vont prendre exemple tous ceux qui viendront après lui, et ce jusqu'à nos jours. Ta'ala bina nu'min sa'a. Viens donc, chers frères, chères sœurs, venez donc que nous puissions nous arrêter et comprendre ce que signifie se rappeler de la foi, ne fût-ce qu'un instant, ne fût-ce qu'une heure. Donc il y a cette fameuse assemblée du rappel où on se rappelle mutuellement quant à nos responsabilités, quant à notre foi, quant à notre devenir et comment se rapprocher un peu plus de notre Créateur subhanahu wa ta'ala dans un monde comme le nôtre qui est un monde mouvementé. Même les cinq prières, mes chers frères et sœurs, même les cinq prières incluent cette notion de rappel et d'assemblée de la foi. Regardez, celui qui prie seul à la maison, s'il fait sa prière correctement dans les règles de l'art, sa prière bien sûr est acceptée. Certes, elle n'a pas la même récompense que celui qui prie en groupe et en collectivité. Et c'est pour cette raison que de nombreux savants anciens et contemporains se sont mis à énumérer les différents bénéfices, les différents acquis que le croyant obtient en priant en communauté, en groupe. C'est pour cette raison d'ailleurs que il nous est demandé, en tout cas surtout les hommes, les femmes pour elles c'est facultatif, ce n'est pas obligatoire, c'est tout simplement recommandé. Il est demandé aux hommes impérativement d'assister à la prière en groupe, en communauté. Et il y a beaucoup de bénéfices, de fruits que le croyant peut en tirer. Parmi ceux-ci, c'est le fait de rencontrer d'autres frères. Aussi, toutes les différences de classe, de race, d'origine s'estompent et s'effacent dans un même rang de prière, car nous sommes tous tournés vers la même direction et nous invoquons tous le même Seigneur qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Sans oublier la récompense qui est prévue quant à ceux et celles qui prient, surtout les hommes qui prient en groupe. Elle est de combien cette récompense par rapport à celui qui prie individuellement chez lui à la maison? Combien? Elle est de combien? De combien de degrés? Vous avez l'air timide là les frères. 27 degrés bien sûr. 27 degrés, vous imaginez, 27 degrés. Donc ça veut dire que si tu pries en groupe, tu as 27 degrés de mérite par rapport à ta prière faite individuellement. Donc on voit ici, mes très chers frères et sœurs, que la prière en commun fait partie aussi de cette assemblée de foi, car aussi à travers notre écoute de la lecture de l'imam, comme aujourd'hui par exemple dans Tarawih, eh bien nous méditons sur le verset. Et ceux et celles qui réfléchissent, eh bien, se remettent aussi en question à travers ce qu'ils écoutent. Ils s'abreuvent, ils se nourrissent de cette parole sage qui est celle, et sublime qui est celle d'Allah Azza wa Jal. Il y a bien sûr de nombreux mérites quant à ces assemblées de la foi. Des mérites que le Coran a retenus, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également mis en évidence. Et je vais m'arrêter à quelques références. La première référence est un verset. C'est la parole d'Allah Azza wa Jal qui nous dit dans la sourate Al-An'am. Il dit « وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ » Ô Muhammad, ne chasse pas de ton assemblée ceux qui invoquent Allah Azza wa Jal matin et soir et n'ont qu'un seul espoir, c'est de contempler le visage d'Allah Azza wa Jal. Ce verset, mes chers frères et sœurs, a une circonstance de descente. Il y a une cause pour laquelle il est descendu. Sabab al-Nuzul. Ce fait ou cette circonstance nous est rapportée par le compagnon Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud nous rappelle que à la Mecque, il y avait, en plus la sourate An'am est une sourate, la sourate Les Bestiaux est une sourate mécoise. À la Mecque, il y avait une assemblée de foi qui existait, à laquelle bien sûr était présent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi les quelques compagnons fraîchement convertis à l'islam et assoiffés de foi et de proximité. Et il disait, nous étions quelques-uns, disait-il, Ibn Mas'ud, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette assemblée de la foi. Il y avait lui-même, il y avait aussi Bilal, il y avait Suhaib, il y avait Ammar, et il y avait un autre compagnon qui s'appelle Khabbab. Alors les notables mécois, lorsqu'ils passaient près de cette assemblée, ils voyaient le prophète assis avec eux en train de, leur parler de la foi, de leur parler comment se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Il leur parle du paradis, de l'enfer, etc. Alors c'est là que certains de ces notables ont interrogé, ont interpellé le prophète Azza wa Jal en lui disant « Oh Muhammad, te contentes-tu de cela dans ton assemblée? Est-ce ces gens-là à qui Dieu a accordé ses faveurs parmi nous, à savoir ces gens faibles ?» Ibn Mas'ud, Bilal, Suhaib, Ammar, Khabbab, ce sont ces gens-là dont tu prétends que Dieu leur a accordé des faveurs. Si tu veux qu'on assiste à ton assemblée, qu'on t'écoute, et sache que nous ne suivrons jamais ces gens-là, ces faibles et ces marginaux de la société. Si tu veux qu'on t'écoute et qu'on s'assie à ton assemblée, eh bien chasse-les. Regardez, l'orgueil, la vanité, la fierté, le fait que ces gens-là, ces notables, riches, puissants, ils dédaignent de s'asseoir dans la même assemblée que ces gens humbles, pauvres et simples qu'étaient ses compagnons que nous venons d'énumérer, de citer. Et bien sûr, le prophète, lorsqu'il a vu ça, il veut gagner ces notables, parce que s'il les gagne à l'islam, eh bien toute la Mecque sera acquise à l'islam. Et c'est là qu'est descendu ce verset. « وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ » Ne chasse pas de ton assemblée ceux qui invoquent Allah Azza wa Jal matin et soir. « يُرِدُونَ وَجْهَهُ » Ils ont espoir de contempler son visage, subhanahu wa ta'ala, ne les chasse pas. Tout comme lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, a reçu l'ordre de patienter avec eux, de s'arrêter lui aussi avec ces gens-là, avec ces gens humbles et simples. Dans un autre verset, qui est dans la sourate, la grotte, sourate Al-Kahf, verset 27. « وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ » Patiente, Muhammad, avec ces hommes, avec ces croyants, qui eux aussi invoquent Allah Azza wa Jal, se rappellent et se remémorent de lui matin et soir. Ils recherchent une seule chose, c'est l'espoir de contempler le visage d'Allah Azza wa Jal, et ne tourne pas ton regard vers d'autres personnes. Tout ça pour rappeler à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ne fais pas attention à ces vaniteux, à ces orgueilleux, qui sont trop orgueilleux pour s'asseoir avec vous. Reste avec eux, parce que c'est dans leur assemblée qu'il y a la baraka, la bénédiction. Regardez ici quelle leçon très riche qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. C'est dans l'assemblée des gens humbles, des gens simples, qu'on retrouve la baraka et la bénédiction. Avons-nous oublié l'invocation, ou plutôt l'interpellation du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il dit, avez-vous oublié qu'en réalité, Allah azza wa jalla vous accorde vos moyens de subsistance et vous accorde la victoire et le succès que grâce aux invocations des plus faibles parmi vous. On oublie. Les gens les plus faibles sont les gens les plus proches d'Allah Azza wa Jal. La sourate Le Temps aussi. Regardez la fin de la sourate Le Temps. Après qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et on a l'impression que cette sourate parle de notre époque. Et c'est la preuve de l'intemporalité du Coran. C'est la preuve que le Coran parle pour tous les temps. Regardez, wal asr. Innal insana lafi khusr. Allah subhanahu wa ta'ala jure par le temps, vit son importance. Ce temps concernant lequel beaucoup d'entre nous regretteront de l'avoir dépensé et dilapidé dans ce qui n'est pas utile et dans ce qui est futile. Innal insana lafi khusr. L'homme est dans la perdition. L'homme, bien sûr, l'espèce humaine, est dans la perdition à partir du moment où il a oublié le sens de son existence et la finalité pour laquelle il est dans ce bas monde. Et la suite, c'est quoi la suite ? Illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sauf ceux qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont donné un sens à leur vie. Wa amilu salihat, qui ont fait des bonnes œuvres, qui ont respecté les commandements et les interdits d'Allah Azza wa Jal, et la fin, c'est ça qui nous intéresse. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Et ils se recommandent mutuellement la patience, ou plutôt ils se recommandent mutuellement dans la vérité, à savoir se maintenir et raffermir ses pas sur cette voie, et en même temps ils se recommandent mutuellement la patience. Eh bien, ici cette sourate, ou la fin de cette sourate, parle aussi de l'assemblée de la foi, car lorsque nous nous réunissons, l'un des buts, l'une des finalités, c'est qu'on se rappelle mutuellement, c'est qu'on se conseille mutuellement, c'est que chacun puisse parler un peu de son expérience, de ce qu'il a appris, de ce qu'il a retenu. Et là tout à l'heure je parlais du sermon du vendredi, et on va y revenir par après inchallah, pour préciser que, et ici je m'adresse particulièrement aux époux, lorsque les époux se rendent à la mosquée le vendredi pour écouter le sermon, il arrive quelquefois que leurs épouses ne peuvent pas les accompagner pour une raison ou pour une autre. Et le problème, il est où ? C'est que la plupart des frères qui assistent au sermon du vendredi, lorsqu'ils rentrent chez eux, ils ne lâchent pas un mot. Qu'est-ce qu'a dit l'imam durant le sermon ? Qu'est-ce qu'il a pu expliquer ? Et quelle était son exhortation durant son sermon ? Il garde un silence. Et même, on a eu écho que certains frères dont leurs épouses les ont interpellés en leur disant « Cher époux, t'as été le Jumu'ah aujourd'hui. » De quoi il a parlé l'imam ? Regardez sa réponse. Et ça, c'est la réponse qui démontre une fois de plus qu'on a un très grand problème de dialogue dans les couples. Et d'ailleurs, le frère Adil a tout à l'heure, Jazallah Khairan, en a parlé. Pour ceux et celles qui étaient présents lors du discours avant l'après de l'Aïcha, il a fait allusion à ça. Regardez sa réponse. Oh, rien de spécial. De toute façon, l'imam raconte toujours la même chose. C'est quoi le thème de la khutbah ? Rien qui puisse t'interpeller. En fait, ce sont des choses que tu connais et que je connais. Tout ça pour se faufiler, pour ne pas lui raconter et lui évoquer ce que l'imam a exposé et ce vers quoi il a exhorté. Alors que le croyant vertueux, c'est celui, et de nouveau j'interpelle, vous m'excusez les frères, hein, aujourd'hui je tape un peu avec le bâton là, ça. Alors que normalement, le frère, le croyant vertueux, est censé, lorsqu'il rentre à la maison, l'une des premières choses qu'il doit faire, au lieu de demander qu'est-ce qu'il y a dans la casserole et est-ce que la table est servie, avant de demander ça, il serait intéressant qu'il rapporte cette connaissance, ce savoir, cette sagesse, cette lumière qu'il a acquis, ce rappel qu'il a acquis durant son écoute du sermon du vendredi, qu'il puisse le rapporter donc à son épouse et à ses enfants. Alors où sont les parents ? Où sont les pères ? Où sont les époux ? Qui, après la prière de vendredi, réunit sa petite famille et leur explique dans les grandes lignes. On ne lui demande pas qu'il se lève avec un bâton et qu'il fait Inna alhamdulillah, qu'il fasse un deuxième sermon. Ce n'est pas ce qui est demandé, qu'il refasse un deuxième sermon. Non. Juste qu'il explique, en gros, ce que l'imam a commenté durant son sermon. Et qu'il soit, bien sûr, honnête dans la transmission, qu'il ne commence pas à faire des commentaires personnels, parce que l'épouse et les enfants vont croire que ça, c'est ce qu'a dit l'imam. Et par rapport à ça, il y a un fait anecdotique qui s'est passé au Maroc. C'est qu'il y avait à Tanger, il y avait un cheikh très connu qui s'appelle Cheikh Zemzemi, rahimallah. Et c'était un homme qui était très jaloux de son temps. Il n'aimait pas qu'on l'interpelle, qu'on l'arrête dans la rue. Il détestait. Il filait comme un TGV. Et un jour, il y avait des ouvriers, des maçons qui étaient en train de construire une maison. Alors, les ouvriers entre eux se sont controversés sur une question. Et pendant qu'ils montaient les briques de la maison, du haut de la maison, ils observent qu'ils de loin, ils voient arriver l'imam, le cheikh en question. Alors l'un d'entre eux dit, bah, écoutez, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Interrogez les gens du rappel si vous ne savez pas. Restez, j'arrive, je vais descendre Je vais lui poser la question. Alors, il est descendu très vite, ce frère, cet ouvrier, il est descendu très vite et il a croisé, donc il a arrêté l'imam. Salam alaikum, ma chère, une petite question. Vite, je t'écoute. Voilà, cher, on était en controverse dans telle question. Qu'est-ce qu'il en est? C'est pas permis. Il continue directement. Il n'a pas donné de détails. Il n'aime pas, il ne supporte pas qu'on l'arrête dans la rue. Son temps étant trop cher. Alors, qu'est-ce qu'il fait, ce frère? Et les gens, ils sont au-dessus. Les autres ouvriers sont au-dessus en train de regarder. Alors, le frère, mashallah, tabarakallah, revient. Il monte. Je ne vais pas dire qu'il monte sur son perchoir. Hein, ce n'est pas le bon mot. Il monte et il retrouve les autres ouvriers et lui dit, alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Et il commence à parler. 5 minutes, 10 minutes. Et c'est là qu'ils lui disent, Smahna, cher frère, excuse-nous, cher frère, tu n'es pas resté tout ce temps avec lui. Non, mais ça, c'est le commentaire pour que je vous éclaircisse ce qu'il a dit. On n'a pas besoin de ton commentaire. Donne-nous ce qu'il a donné comme réponse. Donc, alors ici, il est important de faire en sorte que ce que nous rapportons pour ceux qui assistent à la prière du vendredi et que leurs familles ne sont pas présentes durant celle-ci, qu'ils rapportent le résumé de ce qu'ils ont appris, de ce rappel qui, Inch'Allah, leur fut bénéfique, qu'ils le transmettent à leur famille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi nous a parlé des assemblées de la foi. Il nous précise, et ça on a tendance à l'oublier, il nous précise qu'il y a des anges, malaïka, des anges qui parcourent les chemins à la recherche d'assemblées, de rappels, majalis dhikr. Et celle-ci est l'une d'entre elles. Et je vous annonce la bonne nouvelle. À l'instant même où nous sommes en train de discuter, moi je ne les vois pas, vous non plus. Il y a plein d'anges ici. Il y en a plein, Wallah. Mais nous, on ne les voit pas. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. C'est le prophète Asselim qui l'annonce. Nous, on est devenus trop matérialistes. On ne croit, entre guillemets, qu'à ce qu'on voit. Pourtant, ils sont là. Ils assistent avec nous et ils écoutent attentivement. Et que disent ces anges qui assistent à ces assemblées de rappel, de foi? Lorsqu'ils repèrent et captent une assemblée, ils s'interpellent mutuellement. Venez tous écouter. Venez tous à votre affaire. Cette affaire, c'est quoi? C'est l'assemblée. Et c'est là qu'ils viennent tous s'installer, et ils sont là d'ailleurs avec nous maintenant, pour nous écouter. Et ils nous entourent de leurs ailes nombreuses. Elles sont là, de leurs ailes nombreuses. Et Allah Azza wa Jal après les interroge en leur disant, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait, wa huwa a'lamu bi'ibadih, Allah Azza wa Jal sait d'avance ce que nous avons dit. Et pourtant il les interroge en leur disant, que disait ماذا يقول عبادي, que disaient mes serviteurs, vous qui étiez présents, qu'est-ce qu'ils disaient? Et c'est là que ces anges disent, en réalité ils étaient en train de te glorifier, ils sont en train de te glorifier, ils te témoignent pureté et ils te vouent révérence et respect. Alors il leur dit, Allah Azza wa Jal dit à ces anges, wa hal ra'awni, m'ont-ils vu et observé pour dire ça? Et c'est là que les anges disent, la wallah, ma ra'awk, certes mon Seigneur, ils ne t'ont pas vu. Alors Allah Azza wa Jal interroge ces anges en leur disant, fa kayfa law ra'awni, ils me glorifient, ils me déclarent pureté, ils me témoignent pureté, ils me vouent leur révérence et leur respect, mais quand sera-t-il qu'en serait-il s'ils me voyaient? Et c'est là que ces anges diront, s'ils te voyaient, ya Allah, s'ils te voyaient, eh bien, ils seront beaucoup plus assidus dans l'adoration. S'ils te voyaient, eh bien, ils ne cesseront de continuer à te glorifier vu ta splendeur et ta perfection. Vous voyez? Ensuite, c'est Allah Azza wa Jal interroge ses anges, comme le relate le prophète Azza wa Jal dans cette tradition. Que demandent-ils? Vous étiez présents avec eux. Que demandent-ils? Ils demandent le paradis. L'ont-ils vu? Ont-ils vu ce paradis? Ils répondront non. Mais qu'en serait-il s'il le voyait, ce paradis? Et c'est là que les anges répondent en toute honnêteté et intégrité. Ils disent, s'il l'avait vu, il serait passionnément assidu pour l'obtenir et il s'investirait un peu plus pour s'y rapprocher. Et de quoi? Contre quoi demande-t-il protection? Ces gens auxquels vous avez assisté leur assemblée. Alors c'est là que ces anges disent, ils demandent protection contre l'enfer. يَتَعَوَّذُونَ مِنَ النَّارِ, ils demandent protection contre l'enfer. L'ont-ils vu? هَرْأَوْهَا, ont-ils vu l'enfer? Non. Et que feront-ils s'ils la voyaient? Et c'est là que ces anges répondent, s'ils la voyaient, eh bien, ils prendraient beaucoup plus peur et ils feront tout pour se prémunir contre celle-ci. Et regardez après, quelle splendeur, quelle clémence d'Allah Azza wa Jal. فَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ. Vous imaginez ? Après ce dialogue entre Allah Azza wa Jal et les anges, Allah subhanahu wa ta'ala leur dit, à ces anges qui étaient présents, qui font leur rapport, il leur dit, je vous prends pour témoin, et c'est pour nous ça maintenant, je vous prends pour témoin que je leur ai pardonné. Ça veut dire que nous, maintenant, après la conférence qu'on se lèvera, on aura droit à un immense privilège. C'est que nos péchés nous auront été pardonnés. N'est-ce pas une clémence, ça, mes chers frères et sœurs? Et c'est là qu'un ange parmi ceux qui étaient présents dit, mais mon Seigneur, l'un d'entre eux ne faisait pas partie de leur assemblée. Il y en a un qui était juste de passage. Soit il est venu parler à l'un d'entre nous, ou il est venu récupérer un sac qu'il a oublié, ou un livre, ou encore ses chaussures qu'il a omis de récupérer dans le coin, et qu'il a écouté. Alors, que dit Allah subhanahu wa ta'ala? Regardez sa clémence. Humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Ces gens-là, toute personne qui s'assied avec eux ne sera jamais perdant. Même celui qui mène entre nous de simples passages, c'est un simple passant, mais il a droit à la même récompense, à savoir le pardon. N'est-ce pas là, mes chers frères et sœurs, une très grande clémence de la part de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala à notre égard? Mais malheureusement, notre problème, c'est que nous oublions souvent. Aussi, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a pas des gens qui se réunissent pour se rappeler d'Allah Azza wa Jal sans que les anges, illa wa haffathumul malaika, sans que les anges ne les entourent. Wa rashiyatuhumur rahmah wa nazalat alayhimus sakinah wa dhakarahumullahu fi man 'indah. Il n'y a pas une assemblée qui se réunit comme la nôtre pour se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala sans que ses anges les entourent, comme maintenant, c'est le cas d'ailleurs aujourd'hui, maintenant, en ce moment, et sans aussi qu'ils soient couverts par la clémence et que la sérénité, as-sakina, descende sur nous au même moment. Et plus que cela, Allah subhanahu wa ta'ala, nous tous ici, il nous cite auprès des siens. Il a sa propre assemblée d'anges. Eh bien, nous qui sommes ici, vous imaginez le privilège, nous sommes cités auprès des siens. Et c'est pour cela que les gens de science, Ahlul Ilm, ils disent que les assemblées de la foi du rappel, majalisul imani wa dhikr hiya majalisul malaika, wa majalisul laghwi wa su'i wa al-fasad hiya majalisul shaytan wa al-shayatin. C'est pour cela que les gens de science disent que les assemblées du rappel et de la foi sont les assemblées des anges. Ce sont celles auxquelles assistent les anges. Et quant aux assemblées de la turpitude, du péché, des propos futiles et inutiles, ce sont les assemblées des satans, des shayatins et des démons. Ils aiment bien ces assemblées-là. D'ailleurs, on va voir ça vers la fin. Les shayatins, les satans, les démons ne s'intéressent pas à nos assemblées. Ils n'aiment pas ça. Ils préfèrent les assemblées où on part dans le vide, où on se moque des gens, où on pratique la médisance, la calomnie, le faux témoignage. Ils aiment ces assemblées et bien sûr, c'est leur véritable goûter. Un jour, le compagnon Muawiya radiallahu anhu est entré dans la mosquée et il a trouvé un groupe de croyants en forme de cercle. Alors il leur a dit, qu'est-ce qui vous a fait asseoir? Alors ils ont répondu, nous nous sommes assis ici pour nous rappeler d'Allah Azza wa Jal. Ils ont dit, je vous demande de jurer par Allah Azza wa Jal, dites-moi la vérité, vous êtes-vous assis uniquement pour ça? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons qui vous ont poussé à vous asseoir pour ça? Et c'est là qu'ils répondront, nous jurons par Allah subhanahu wa ta'ala que la seule raison qui nous a poussé à nous asseoir ensemble dans ce cercle et cette assemblée, c'est se rappeler d'Allah Azza wa Jal. Et c'est là que Muawiya radiallahu anhu leur dit, en réalité, lorsque je vous ai demandé de jurer, ce n'était pas parce que je vous accusais de quoi que ce soit, mais c'est parce que j'étais témoin. Et moi, je suis l'un de ceux qui a rapporté le moins de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Néanmoins, j'étais témoin du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu à son tour une assemblée dans la mosquée. Et il leur a posé la même question que je vous ai posée en leur disant, pourquoi vous êtes-vous assis? Pourquoi vous êtes-vous réunis ici? Qu'est-ce qui vous a motivé? Et c'est là qu'ils lui ont dit, nous nous sommes assis, ya Rasulallah, au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, pour nous rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala et des bienfaits du fait qu'il nous a guidés vers l'islam et qu'il nous a accordé ses faveurs. Et aussi ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a fait jurer pour savoir, est-ce vrai? Est-ce pour cette raison? Est-ce pour cette raison que vous vous êtes vraiment réunis? Et bien sûr, ils confirmeront. Et c'est là que le prophète, comme le rapporte le compagnon Muawiya, le prophète dira, sachez que Jibril alayhi salam s'est présenté à moi. Et qu'est-ce qu'a dit Jibril? Il a dit: dis-leur, ya Muhammad, qu'Allah azza wa jal, auprès de ses anges, il exalte et il vante les qualités de ses croyants, de ses croyantes qui sont réunis en assemblée. Il les vante, il exalte, il fait éloge de nous auprès des anges. Autrement dit, il nous cite auprès d'une assemblée beaucoup plus noble, mais il nous cite avec beaucoup de mérite et beaucoup d'attention et beaucoup d'égard. Et ça, ça confirme aussi le hadith Qudusi, ce hadith divin, où Allah Azza wa Jalla dit: Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idha dhakarani. Je suis à l'intention de mon serviteur et je suis avec lui chaque fois qu'il se rappelle de moi. Fa in dhakarani fi nafsihi dhakartuhu fi nafsi. Regardez, subhanallah. Dès que tu te rappelles en toi-même, tu te rappelles d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien lui aussi, il se rappelle de toi au même moment. Wa in dhakarani fi mala'in dhakartuhu fi mala'in khayrin minhu. Et s'il se rappelle de moi dans une assemblée, ce croyant, cette croyante, eh bien, qu'il sache et qu'elle sache que moi aussi, je me rappelle de lui. Je le cite dans une assemblée qui est beaucoup plus meilleure que la sienne. Un jour, le prophète sallam était assis avec ses compagnons. On est toujours dans les mérites, bien sûr, de ces assemblées, comme la nôtre. Il était assis avec ses compagnons et c'est là que trois hommes sont entrés. L'un d'entre eux a trouvé une brèche, fourja, dans l'assemblée. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est glissé, il s'est assis discrètement. Le deuxième, qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté derrière. Et le troisième, il a tourné le dos, il est parti. Après que le prophète sallam ait terminé son discours et son rappel, il dit à ses compagnons: voulez-vous que je vous informe quant aux nouvelles de ces trois hommes qui sont entrés? Quant au premier qui a trouvé une brèche, fourja, dans l'assemblée, eh bien celui-là cherchait refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il recherche sa foi. Il recherche le rappel et Allah Azza wa Jalla l'a accueilli parmi les siens. Quel honneur! Le deuxième, celui qui s'est assis derrière, c'est quelqu'un qui était très pudique. Il a vu qu'il y avait trop de monde, il n'a pas voulu bousculer les gens, il s'est mis derrière. Eh bien, Allah Azza wa Jalla aura la même attitude envers lui, de respect et beaucoup d'égard. Quant au troisième, il s'est détourné parce qu'il prétend tout connaître. Il s'est détourné par désintéressement et Allah subhanahu wa ta'ala aussi s'est détourné de lui par désintérêt. Regardez, avez-vous observé, mes chers frères et sœurs, ce que coûte le fait de s'asseoir dans ces assemblées? On ne s'en rend pas compte. Wallahi, croyez-moi, nous ne nous rendons pas compte quant au mérite que nous récoltons. Je vous donne un simple exemple, et je le dis en toute franchise. Dans les associations qui sont ici à Bruxelles, à titre d'exemple, lorsque nous organisons une conférence ou un cours, ceux qui prennent le plus congé dans ces cours et ces conférences, ce sont les frères. Désolé, hein, mais c'est la vérité. Et on nous annonce que les personnes qui assistent le plus aux cours et aux conférences, ce sont les sœurs. Et les frères, mashallah, tabarakallah, ils connaissent tout. C'est comme si le frère te disait: Ana al-bahr wa minni yatafarraqu al-ilm. Je suis l'océan et c'est de moi que se dégage la science et se déverse sur vous. Et on observe même des fois des frères qui viennent en voiture, qui déposent leurs épouses à des cours et des conférences, et lui, il appuie sur l'accélérateur, il est parti. Wallahi, ce frère, s'il est occupé, s'il a rendez-vous, s'il doit aller chez le dentiste, s'il doit voir sa famille, wallahi, il est excusé, il n'y a pas de problème. Mais le drame, c'est de voir que certains frères, ils n'ont rien. Ils n'ont rien à faire. Alors au lieu de venir s'asseoir, d'écouter, de tirer profit, de rencontrer d'autres frères, eh bien, qu'est-ce qu'ils préfèrent faire pour quelque part satisfaire madame et l'épouse, et selon l'expression des maghrébins, la ministre de l'intérieur, eh bien il la ramène à la conférence, comme ça elle n'aura pas à rouspéter sur lui ou à lui demander des comptes. Ça aussi c'est une stratégie de certains frères, je vous le dis ouvertement, hein. On a eu des plaintes par rapport à ça. Il y a des frères qui nous disent, ou des sœurs qui nous appellent et qui nous disent: nous avons des maris, ce sont de fins stratèges. Si seulement il était dans le bien. Qu'est-ce qu'ils font? Pour ne pas laisser l'épouse toute seule à la maison et qu'eux, ils vont se balader 1h du matin, 2h du matin, elle revient, coulera où il n'y a pas le feu. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils emmènent leurs épouses à des cours et des conférences. Comme ça, quelque part, ils ont leur silence. Ils ont leur silence. Et après ça, monsieur, le respectueux, peut après cela vaquer à ses occupations. Il va voir les délarés, les amis. Il va qasser avec eux, passer une soirée avec eux. Souvent, malheureusement, dans le futil, pendant que son épouse, elle, profite des connaissances et des sagesses qui seront prodiguées durant cette conférence ou ce cours. Et wallahi, croyez-moi, lorsque le frère rentre à la maison, il n'ose même pas poser la question à son épouse: chère épouse, qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? C'est vrai, il n'a pas besoin, après tout. Il est savant. C'est Mufti de Diyar, c'est le Mufti des contrées. Il n'a pas besoin de poser de questions. Qu'est-ce que cette dame, entre guillemets, cette épouse, excusez-moi, c'est pas un lapsus révélateur, hein. Qu'est-ce que cette épouse va lui apprendre de nouveau? Alors il rentre à la maison comme si de rien n'était. Alors c'est dommage que nos frères et sœurs, nos frères surtout, gâchent cette occasion de hasanat, de bonnes actions et de clémence, de pardon qu'ils peuvent gagner, qu'ils peuvent obtenir à travers ces assemblées. Et un autre phénomène aussi, malheureusement très néfaste, c'est que certains frères se disent: de toute façon, moi j'ai pas besoin d'assister à la conférence ou au cours, car paraîtrait-il qu'il y aura des cassettes plus tard. Nous sommes à l'époque de la technologie, de la révolution informatique, la révolution de la communication, et cette révolution a aussi des effets pervers sur nous. Parce que le croyant ne fait plus le pas, se dire: tiens, je vais sortir de la maison, je vais faire mes ablutions, je vais m'habiller correctement, je vais me parfumer, je vais aller à cette assemblée, écouter le rappel. Non, il se dit: moi de toute façon, alhamdoulilah, on m'a annoncé que la cassette sortira dans 3 semaines, dans 1 mois. C'est bon, je n'ai pas besoin de sortir. La cassette va arriver. Je n'ai qu'à dans 3 semaines, 1 mois, aller à la librairie et j'achète la cassette. Wa kafa Allah al-mu'minin al-qital. Pourquoi se disputer, se bousculer, aller à une conférence? Pourquoi? Je reste chez moi s'il est bien au chaud, ou bien je vais qassar, passer une soirée avec des amis, et puis al-baqi viendra après. Mais ça, c'est grave de penser comme ça. On passe, wallahi, croyez-moi mes chers frères et sœurs, nous passons à côté de l'essentiel. Je suis certain, et je vais vous donner une anecdote, un fait divers réel qui s'est passé à Médine, vous allez voir. Je suis certain que si maintenant le conférencier ou l'association disait: fais une annonce, voilà les frères, celui qui vient à la conférence, il reçoit 500 euros. Il aura bousculade devant la porte. Certains vont faire i'tikaf. Ils vont faire une retraite spirituelle devant l'association, devant la mosquée. Même s'il faut mettre une tente et être avant les autres, il le fera. C'est triste. Et je me souviens d'un cheikh à Médine qui est décédé, rahimallah, il y a une dizaine d'années de cela. C'est triste, hein. Ce cheikh donnait un cours tous les jours dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et malheureusement, il avait un cours de, croyez-moi, wallahi, il avait un cours de qualité. Un très bon cours et très profitable. Et il avait très peu d'élèves, très très peu. Les gens, ils ne s'intéressent pas. Et vous savez ce qu'il a fait? Et c'était un homme, cet homme de science, c'est quelqu'un de très riche et très aisé. Alors il a fait passer le message auprès de ses élèves. Il leur a dit: vous savez quoi? Faites passer l'information. Je donne 500 riyals à chaque élève qui vient s'installer. Le cours suivant, son périmètre, il était complet. Ils étaient tous là. Et après le cours, ils sont tous venus s'inscrire sur la liste. Pour recevoir, et j'étais au cours moi, pour recevoir leurs 500 riyals. 500 riyals à l'époque, ça valait, avec l'ancienne monnaie belge, donc 5000 francs belges. Vous imaginez, il avait 2 cours semaine. Combien ça fait? Ça fait combien? Combien t'as gagné en une semaine? T'as gagné 10 000 francs belges en une semaine. C'est même pas un travail, on te demande rien. Juste viens t'asseoir écouter. Et t'as gagné 10 000 francs belges. Alors des fois je me pose la question, est-ce que nous aussi on doit faire cette méthode-là? Bien que nous on est paumés, on n'a pas grand chose. Est-ce qu'on a pratiqué la même méthode et mettre une annonce? Et là je crois qu'il y a des grands risques qu'il y aura bousculade devant les portes des salles de conférences et des associations et mosquées, parce que là on sait qu'il y a de l'argent qui sera déposé. C'est triste, mais c'est ça le triste vécu dans lequel nous pataugeons. Il y avait un pieux prédécesseur qui s'appelle Abu Muslim al-Khawlani. Ce pieux prédécesseur, c'était quelqu'un qui était à l'affût d'une assemblée. Il avait besoin de remettre en question sa foi, de se ressourcer. On a tous besoin de ça en réalité. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il commence à chercher. Et il est entré dans une mosquée. Et il a vu une assemblée. Il a dit: Alhamdulillah. Louange à Allah Azza wa Jal, j'ai trouvé ce que je veux. Et lorsqu'il s'est assis dans cette assemblée, il fut très vite déçu. Dans la mosquée, cette assemblée parlait de dunya. Il parlait d'affaires de ce bas monde. Et c'est là qu'en colère et déçu, Il s'est levé et il leur a dit, savez-vous à quoi vous ressemblez, à quoi je ressemble? Il dit, je ressemble par rapport à vous à celui qui marche en rue sous une pluie torrentielle et qui cherche un abri. Et il a vu de grandes portes. Et il a dit, enfin un refuge. Et lorsqu'il est entré, lorsqu'il a traversé le seuil de ces deux portes, il a vu que cette demeure n'avait pas de toit. Donc il est rentré, la pluie continue à tomber, il n'y avait pas de toit. Donc il voulait se protéger, ben non, il y a encore de la pluie. Et ben il dit, moi c'est pareil avec vous. Je cherche un endroit où me ressourcer au niveau de ma foi, alors que dehors, je n'entends que la dunya, que le bas monde, que les affaires, le commerce, l'argent. Et je viens vers vous, alors que je pense trouver l'assemblée idéale qui peut ressourcer ma foi, qui peut enrichir et fortifier ma foi, et voilà que je tombe sur des gens qui ne parlent que de dunya et que de ce bas monde. Alors la question que certainement beaucoup d'entre vous doivent se poser, comment faire revivre ces assemblées de la foi, du rappel? C'est quoi? Il y a une méthode? Est-ce qu'il y a un ABC? Est-ce qu'il y a un manuel pour pouvoir faire vivre ces assemblées de foi? Parce qu'on en a besoin. Croyez-moi, wallahi, chacun d'entre nous a besoin de ces assemblées de foi. Car la foi se vit en commun. Celui qui croit faire son petit chemin dans sa foi se trompe énormément. Car il ne peut pas avancer tout seul. Il peut être autonome à un certain degré. Mais après ça, il a besoin de ses frères. Et la sœur a besoin de ses sœurs pour le rappel, pour se rappeler mutuellement et pour s'enrichir aussi à travers la connaissance. Il y a différents moyens et différents chemins qui nous aident à revivifier ces assemblées de la foi qui sont malheureusement très abandonnées et négligées de nos jours. La première des voies ou le premier des chemins, c'est ce qu'on appelle mulazamatu hilaqil ilm. C'est d'être assidu dans la fréquentation des assemblées où on vous enseigne un savoir qui vous rapproche d'Allah Azza wa Jal. Alors posons-nous la question, combien de temps par semaine consacrons-nous à notre religion? Participons-nous à des cours? Alors qu'alhamdoulilah, ici à Bruxelles, il y a une suffisance. Wallahi, dans certains de mes voyages dans d'autres villes de Belgique, Charleroi, Liège, Louvain-la-Neuve également, qui n'est pas très loin, et même en France aussi. Quand je vais aussi en France pour des conférences et des colloques, eh bien, wallahi, mes chers frères et sœurs, croyez-moi, vous savez ce que nous disent, ou ce que me disent les frères là-bas, ils me disent, pouvez-vous venir nous voir une fois par mois? Ça, c'est en France. Ici, ils nous disent s'il y a moyen toutes les trois semaines, parce qu'ils n'ont personne. Wallahi, ils n'ont personne pour leur faire un rappel. Et lors d'un dernier voyage que j'ai fait, qui était au sud de la France, donc à Toulon, eh bien, bihamdillah, et ça c'est la grâce d'Allah, c'est pas moi, c'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est la preuve qu'ils sont assoiffés. La mosquée où j'ai été faire mon discours, mon intervention, elle était comble, elle était bondée, il n'y avait plus de place. Ils ont dû même aménager le couloir de la mosquée pour installer les gens. Ils sont assoiffés, ils n'ont rien. Et lorsque je les interroge, je leur dis, bien sûr, en cercle privé avec les responsables de la mosquée, je leur dis, et pendant l'année, c'est quoi votre programme? Vous savez ce qu'ils me disent? Ils me disent, pendant l'année, on a 2 à 3, toute l'année, hein, il y a 12 mois, nous avons 2 à 3 conférenciers qui viennent nous voir. Sur toute l'année, ça veut dire que pendant une année, ils n'ont droit qu'à 3 conférences. Ici à Bruxelles, alhamdoulilah, c'est un khair, c'est un bien immense, il y a tout ce qu'il faut. Et je n'ai jamais vu une ville et une capitale aussi remplie de savants que Bruxelles. Sincèrement. Je n'ai jamais vu une ville comme Bruxelles aussi remplie de savants. La preuve, c'est que les cours sont vides. Les conférences sont vides. Parce qu'ils sont tous savants. Et quand tu es savant, tu n'as rien à apprendre. Et on a même entendu des réflexions du style, mais qu'est-ce qui va m'apprendre celui-là? C'est triste. Wallahi, le cheikh Abdelaziz Ben Baz, que vous connaissez certainement, cet homme, c'est une sommité, c'est une bibliothèque ambulante, Ali rahmatullah. Vous savez ce qu'il faisait? Un jour, il s'est assis à une conférence de l'un de ses élèves. Lui, il avait la 60aine et son élève n'avait que la 30aine, 30 ans de différence. Il s'est assis et c'est là que son élève était même gêné de prendre la parole. Il dit, comment je puisse prendre la parole devant mon professeur, devant mon cher? C'est lui qui m'a tout appris. Et c'est là que le cher lui disait, continue, nous sommes tous là pour le rappel. Regardez quelle humilité, quelle modestie. Alors j'espère que nous tous et toutes ici à Bruxelles particulièrement, demain et après-demain et dans les semaines et mois à venir, on va aussi apprendre un peu cette humilité, cette modestie, de marquer un temps d'arrêt quant à nos activités quotidiennes et d'aller de temps en temps écouter une conférence ou suivre un cours, car cela ne peut être que bénéfique pour nous. Et je rappelle, les frères et sœurs qui sont occupés, qui travaillent, qui ont des études, ils sont excusés. Moi je ne parle pas d'eux. Ceux-là sont dispensés d'avance. Moi je parle de ceux, surtout de ceux qui ont beaucoup de temps libre et qui dédaignent aller écouter et s'asseoir et méditer. Ça, c'est très dommage. Le deuxième chemin, c'est la fréquentation des croyants. As-suhbatul mu'minah. Choisis-toi une petite compagnie de frères que tu aimes en Dieu, pour la sœur des sœurs qu'elle aime en Dieu. Et essayez de faire entre vous des petites rencontres. C'est pas grave si on met sur la table du thé, du café, des biscuits, c'est pas grave ça. C'est pas l'essentiel. Mais le plus important, c'est lorsqu'on se réunit entre nous, en petite assemblée, qu'il y a un petit rappel entre nous. Pourquoi pas lire un chapitre d'un livre? Pourquoi pas écouter ensemble une cassette d'un cours ou d'une conférence? Pourquoi pas lire une page ou une sourate du Coran et après ça discuter un peu de ce qu'on a pu en tirer? Et wallahi, croyez-moi, essayez cette méthode et rentrez chez vous après. Vous allez voir comment vous allez vous sentir apaisé. Vous allez sentir une paix intérieure. Mais ça, c'est pour ceux et celles qui réfléchissent. Et malheureusement, ce n'est pas souvent le cas nous concernant. Également, parmi les voies pour faire vivre et revivifier ces assemblées de foi et de rappel, c'est d'instituer un rappel dans nos maisons, avec nos épouses, avec nos enfants, avec nos frères et sœurs, avec nos parents. Je me souviens d'un conflit conjugal et malheureusement, c'est triste qu'on vous relate souvent ces faits maintenant. Je me souviens d'un conflit conjugal. L'épouse disait, lorsque je suis venu arbitrer entre l'époux et son épouse, l'épouse disait, ce que je reproche à mon mari, c'est qu'il va dans tous les cours. Moi, je dois rester à la maison, garder les enfants. Lui, il va à tous les cours. Et lorsqu'il rentre à la maison, il ne me dit rien. Il va directement sur son PC. Il continue à chercher sur le fléau de ce temps, l'Internet. Bon, alhamdoulilah, le frère, il ne faisait pas le chatage, ou le chatanisme, pour être plus précis. Ça, alhamdoulilah, il ne le faisait pas. Mais bon, il était sur Internet, sur des sites, il écrivait, il étudiait, et elle, miskina, n'apprenait rien. Cette heure, elle me disait, cher frère, je régresse dans ma foi, je vais en arrière. Et mon mari est principalement responsable, parce qu'il ne m'apporte rien. Alors j'ai commencé à interpeller le frère par rapport à l'importance du dialogue avec son épouse. Vous savez ce qu'il me répond? Écoutez bien sa réponse. C'est dramatique. Je lui dis, cher frère, il faut essayer de... T'as une lumière entre tes mains, mashallah, tu as un petit bagage de connaissances. Rentre à la maison, enseigne-le à ta femme. Partage avec elle, avec tes enfants, ce que tu as appris, c'est important. Tu es responsable de ta famille, tu n'es pas responsable que de toi-même. Si tu étais célibataire, oui, mais là tu as une famille. Alors c'est là qu'il me dit, mon épouse exagère. Je lui dis, comment ça exagère? T'oses dire, il dit à son épouse, tu oses dire qu'on n'a jamais de discussion entre nous? Et quand on s'assied pour manger, est-ce qu'on ne discute pas? Alors je ne vous cache pas, je viens à fou rire, je dis, mais heureusement encore que vous discutez en mangeant. Parce que si vous étiez tous les deux muets en mangeant, ben ce serait dramatique. Et aussi bon, par rapport aux sorties aussi, le fait qu'il ne la sortait jamais pour une promenade, pour voir des sœurs ou une famille ou de la famille. Alors il dit, là aussi t'exagères. Est-ce qu'on ne va pas faire les courses ensemble au magasin? Est-ce qu'on va pas des fois ensemble chercher les enfants à l'école? Mais ça, cher frère, c'est le strict minimum obligatoire que tu dois faire. Ça, il faut même pas en parler. Ça fait pas partie du lot sur lequel, concernant lequel nous discutons. Donc, mettre en place ce rappel à la maison, avec nos familles, nos proches. Si vous êtes invité à un mariage, par exemple, eh bien, s'il n'y a personne pour prendre la parole, eh bien, prenez la parole. Cassez ce trac que vous avez. Prenez la parole, on ne vous dit pas de faire comme a fait un frère un jour dans un mariage. Il avait été invité et puis on lui a dit, cher frère, fais-nous s'il te plaît, fais-nous un speech, un discours. Pas de problème. Wallahi, je n'exagère pas. Il aura fait un discours de 2 heures. Les gens regardent leur montre. Le marié, il commence à suer parce qu'il voit que sa soirée va mal tourner. Et puis certains... voient leur passé, la nourriture n'est toujours pas déposée, ils ont commencé à se lever les uns après les autres, ils ont commencé à partir. Il leur a fait un discours de 2 heures, et personne ne pouvait l'arrêter. Ils ont bon faire... ils ont bon pousser son pied, donc caresser son pied gentiment, hein, pour ne pas le forcer. Il était lancé, plus personne ne pouvait l'arrêter. C'est comme un train. À l'air était un train. Il n'a même pas fait... Après, lorsqu'il a dit, cher frère, tu trouves pas que tu as fait un peu trop long, là, 2 heures? Il a dit, vous exagérez. 2 heures, j'ai fait. Mais oui, 2 heures. Tu vas pas te lasser les vides, maintenant. Donc, bien sûr, tenir compte aussi des circonstances. Aussi, lorsqu'il y a un décès aussi. Lorsqu'il y a un décès, bien, c'est l'occasion. Il y a beaucoup de gens réunis, des proches, des gens qui ne prient pas, des gens qui sont insouciants, qui sont marqués par le décès, etc. Bien, profitons de l'occasion pour faire un rappel. Un petit rappel, ne fût-ce que de quelques minutes, 5-10 minutes, pas plus. Et ne te dis jamais, cher frère, ne dis jamais à ta propre personne, je ne suis pas capable de parler. Si tu es capable, quoi, toutes ces conférences et ces cours et ces sermons que tu as écoutés pendant des années, tu n'as rien retenu. Tu es incapable de prodiguer quelques paroles sages, juste des paroles sages, même si tu ne connais pas de verset, imaginons que tu ne connais rien, c'est dit. Tu ne connais ni verset ni hadith, rien. Eh bien, ne fût-ce que quelques paroles sages que tu aurais à donner à la famille, aux proches, durant ce décès ou durant ce mariage ou durant ce baptême, cette naissance. Alors il y a une question que beaucoup de nos frères et sœurs posent, et ça c'est surtout par rapport aux familles. Certains nous disent, oui mais moi quand je commence à parler avec la famille, ils se moquent de moi. Et ça arrive ça dans des familles qui ne sont pas des familles musulmanes, qui ne sont pas très pratiquantes, qui n'ont pas un ancrage solide dans la pratique de l'islam, ils se mettent à se moquer d'eux. Ou alors elle est tournée en dérision, au point que le frère ou la sœur, eh bien, arrête, décide de ne plus parler. Ben ça c'est une erreur, ça c'est jouer leur jeu. Et c'est surtout jouer le jeu de Satan. Fais pas attention à ce qu'ils disent. Il se peut qu'ils vont rigoler pendant que tu parles. C'est pas grave, continue. Toi, fais-le pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tout comme aussi, il y a aussi c'est ce qu'on appelle al-wara' al-barid. C'est cette humilité froide. Certains disent, non, moi j'ai peur de l'ostentation, je préfère pas parler. Non, reparle. Au contraire, c'est ce que le fait de te cacher derrière cette fausse excuse de te dire... Si je parle et j'ai peur de tomber dans l'ostentation, ils vont dire Masha'Allah, il connaît beaucoup de choses. Non, parle. Essaie de travailler ton intention, mais parle. Il faut parler, il ne faut pas te taire. Donc, essayons de saisir ces opportunités dans ces assemblées, car croyez-moi, il y a beaucoup d'assemblées, comme les mariages, comme les décès, où on retrouve des gens, et même les naissances, ce qu'on appelle l'aqira, où nous retrouvons, croyez-moi, nous retrouvons des gens durant ces cérémonies ou ces rencontres qui sont très très loin du rappel d'Allah Azza wa Jalla. Et je vais vous citer un exemple, un fait que moi j'ai connu. C'était l'an dernier, j'étais invité à un mariage d'un frère. Alors qu'est-ce que j'avais? Dès que je suis arrivé, le frère m'a dit, il y aura beaucoup de jeunes. Très bien, alhamdoulilah. Je suis arrivé à ce mariage. Vous savez, c'est une salle, il y a plusieurs tables. Et alors je vois une table de frères que je connais. Et j'ai décidé de ne pas m'asseoir à leur table. Pourtant les frères m'ont dit, viens t'asseoir. Je dis non. J'étais m'asseoir à une table de frères que je ne connais pas, des jeunes que je ne connais pas. J'étais comme un étranger, j'étais assis et moi je les écoutais. Pourquoi je les écoutais? Pour capter un peu, mesurer un peu la température, voir un peu ce qui se passe, voir un peu quels sont les types de discussions qu'il y a entre nos jeunes. Et je les écoute. Ils parlent de catalogue de voitures, ils parlent de derniers voyages qu'ils ont fait dans une île, je ne sais où. J'ai ouvert un compte bancaire à Dexia, ils font des belles promotions dans tel magasin. Que dounia, voiture, maison, voyage, ceci, l'agence, etc. Alors moi j'écoutais, je disais rien. Et eux ne connaissent pas, moi je ne les connais pas. Khair, Inch'Allah. Après ça, le mari vient me dire, Jacques, est-ce qu'il y a pour moi de faire un petit rappel? Je fais Bismillah. Et en fait, Alhamdulillah, ces frères, ces jeunes m'ont fourni la matière de mon intervention. En fait, je n'avais rien à préparer. Eux, gentiment, ils m'ont préparé mon intervention. Et j'ai donc fait un rappel par rapport aux bienfaits de la jeunesse, aux bienfaits de la santé, de la vitalité, aux pertes et aux gains, selon le camp dans lequel on se situe par rapport aux jeunes, ceux qui ont compris, et ceux qui préfèrent tout reporter à demain, et demain malheureusement n'est pas un lendemain sûr, et que souvent on regrette, et vous savez ce qui s'est passé, il ne faut jamais négliger ce détail. Après quand on a fini, on a bien mangé, etc., c'est bon. Après ça, vous connaissez le système hein, dans les mariages. Dès qu'on a tout le monde à manger, après on vous fait comprendre, allez, ma salam, vous pouvez y aller. On vous donne le congé là. Dès qu'ils retirent la nappe de la table, ça, on a tout compris. El Mouhim, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je me suis levé et l'un des jeunes qui était assis à la table est venu vers moi. Il a fait, cher frère, je dois te parler une minute. Il me dit, Wallah, je n'ai jamais, comme ça, je n'ai jamais de ma vie entendu un rappel comme le tien. Il a dit, c'est la première fois que j'entends ça. Parce qu'il vit dans un monde d'insouciance. Il n'y a pas de rappel. Alors à nous de saisir ces opportunités, ces occasions, les mariages, les naissances, les décès, pour faire des rappels, pour transformer ces assemblées en des assemblées où les anges sont présents. Et je vous cite encore un autre et dernier fait divers, Inch'Allah. C'était un frère qui... Encore un mariage. Hein. Ne croyez pas qu'on a un calepin plein d'adresses de mariage ou d'invitation. Je vous rassure. C'est aussi un mariage. C'est quelques années. Un frère qui nous a... Un frère donc qui nous a invités. Et lorsqu'on arrivait donc devant la porte de la demeure du frère, on entend de la musique. Alors le frère qui est avec moi, il me dit, c'est quoi, mais viens, on part. Je dis, attends. Et puis le mari descend, parce qu'il y a une hachman tout gêné. Et puis je dis au frère, il y a de l'ambiance là, machallah, l'étage. Et il me dit, tu sais comment c'est les jeunes, ils aiment bien rigoler, ils aiment bien s'amuser. Je peux te demander un service? Il dit, oui, s'il te plaît. Éteignez. C'est quoi, c'est un CD? Il m'a dit, non, c'est une cassette. Je vais éteindre la cassette, ne fût-ce que pour une petite demi-heure. Je te demande une demi-heure. Après la demi-heure, vous faites ce que vous voulez. Il n'y a pas trop, le viens. On est monté. Alors dès qu'on est rentré, le frère et moi-même, c'était bon, un salon rempli de jeunes. Dès qu'ils ont vu, ils nous ont rentré deux barbus, deux barbuchons. Ils ont dit, ça y est, ils arrivent. Ça y est, ils ont débarqué. Wallah, ils étaient dégoûtés. Ils étaient dégoûtés parce qu'on va leur casser la soirée. Avant qu'on vienne, ils s'amusaient, ils rigolaient, ils se taquinaient, ils écoutaient la musique, ils chantaient entre eux. Et dès qu'on a débarqué, en camis et en barbuchon, ça va pas ça. Ils tiraient tous la tête. Alors j'ai dit au frère qui était avec moi, je fais, tu sais, qu'on va se partager à deux une petite intervention. Je fais un quart d'heure, tu fais un quart d'heure. Allez, ça fait. On a fait une petite intervention chacun. Et bien, subhanallah. Après, on a dit au frère, bon, nous, on va peut-être vous laisser. Mais si vous voulez vaquer à vos occupations, faites-le. Il n'y a personne qui a osé allumer l'enregistreur. Tout le monde se regardait. Et puis après, on a été arrosés et bombardés de questions par ces jeunes. Nous avons été bombardés de questions par ces jeunes. Et bien, alhamdoulilah. Et même le mari nous a dit, eh bien, franchement, je pensais que ça allait mal tourner. Mais franchement, vous avez été tous les deux très diplomates. Alhamdoulilah. Donc vous voyez, il y a moyen. Il y a des potentiels de bien chez beaucoup de nos jeunes qui sont dans ces mondes d'insouciance, mais ils n'ont pas trouvé qui leur faire ce rappel. Alors à nous de le faire, Inch'Allah. Et ne pas faire attention aux critiques, aux moqueries, faites-le et il faut s'en remettre à l'Azogel. Alors quels sont les bienfaits, et nous arrivons à la fin de la conférence, quels sont les bienfaits de ces assemblées de foi? Quelles sont leurs répercussions sur nous? Je peux citer 4 degrés de répercussions. Le premier sur le plan moral, quand tu as un coup de barre, quand ton moral est vraiment cassé ou tu as un coup de cafard, eh bien la meilleure manière de remédier à ce coup de barre ou à ce coup de cafard, c'est d'aller voir tes frères, ceux qui vont te rappeler ta foi et ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Tu verras que tu rentres chez toi et tu vas te sentir beaucoup mieux. Deuxième répercussion, c'est sur le plan social. Vous savez, l'individualisme, le fait de vivre sa foi en individualité ou d'une façon individuelle, c'est mortel pour la foi. Wallahi, on connaît des frères et sœurs qui se sont coupés de la communauté, qui se sont coupés de leurs frères et sœurs et qui ont chuté dans leur foi. Ils ont cru tenir bon, mais face aux tempêtes, des tentations, face aussi à Satan qui est là et qui travaille, ils ont commencé à reculer en arrière. Ils ont commencé à négliger leur foi et leurs devoirs et malheureusement certains même abandonnaient complètement la prière et leur pratique parce qu'il n'y a pas de rappel autour d'eux. Et le prophète nous l'a bien dit, « Innama ya'kulu dhi'b min al-ghanam al-qasiyah » Le loup attaque toujours la brebis galeuse. Jamais, observez vous-même, jamais un loup n'attaque un troupeau, jamais de sa vie. Il attend celle qui boite, qui traîne le pas, et il l'attaque. Et ça, c'est sa proie et c'est sa zelda pour la soirée. Eh bien, Satan s'est paré avec nous. Si on est en groupe comme maintenant, il ne nous attaquera pas. Mais dès qu'on se disperse, il va commencer à attaquer chacun d'entre nous individuellement. Il va essayer de nous attirer dans son piège le mieux qu'il peut. Sur le plan aussi de l'éducation, ces assemblées nous éduquent aussi. On découvre nos erreurs, nos défauts, notre ignorance. On remet en question notre insouciance. Et dernier domaine où se retrouve la répercussion de ces assemblées, c'est sur le plan de la connaissance. Chaque fois que tu t'assis dans ces assemblées et que tu en ressors avec de la connaissance. Je vais vous citer pêle-mêle et très rapidement quelques bienséances qu'on doit observer dans ces assemblées. L'islam nous a enseigné une série de bienséances, de comportements à avoir pour que ces assemblées soient bénéfiques pour notre foi, nous éduquent et adoucissent nos cœurs. La première de celles-ci, c'est bien entendu la fréquentation pieuse. C'est choisir ta bonne compagnie. Cher frère, si tu fréquentes des gens qui passent leur temps dans le vide et dans l'inutile, ne t'étonne pas que tu ne vas rien apprendre. Ne t'étonne pas que ton cœur va durcir. Si tu fréquentes des gens qui passent leur temps à faire de la médisance, à se moquer des gens, à insulter les gens, bref, à passer leur temps dans l'inutile et le futile, ne t'étonne pas aussi que ta foi va chuter et que tu deviendras comme eux. Et c'est pour ça que le prophète sallam dit « Al mar'u ala dini khalili falyandur ahadukum man yukhalil » Chacun d'entre nous est sur la voie de son ami intime, à nous de choisir nos amis intimes. Tout dépend qui on fréquente et vous connaissez l'expression « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». Aussi, parmi les bienséances, je rappelle, je vais les citer très rapidement, c'est de s'asseoir dans l'assemblée avec respect, avec sérénité, et de ne pas faire trop de mouvements. Là, il y a des gens dans les assemblées, je ne sais pas quelle mouche les a piqués. Ils passent leur temps à jouer dans leur barbe. Ils peignent leur barbe avec leurs mains. Ils la tirent. D'autres encore passent leur temps à bailler. D'autres encore, ils ont... Comment on appelle ça? La visseuse. C'est la visseuse qu'on appelle ça. La visseuse. Ils ont les visseuses. C'est leurs doigts qui passent dans le nez. Wallah, ils passent leur temps comme ça. Et ils ne sont pas gênés, attention. Lorsqu'ils ont fini le secteur droit, ils passent au secteur gauche. Et puis ils reviennent à la case départ. Et c'est comme ça, d'une narine à l'autre. Ils changent de camp. Et sans gêne. Ils ne se disent pas, c'est haïb, c'est mal de faire ça devant les gens, etc. Déjà seul, c'est pas bien de le faire, que dire devant les gens. Ben lui, Dunihan, il n'y a pas de problème. La visseuse travaille. Également, parmi les bienséances, c'est de s'asseoir là où se termine l'assemblée. Pas qu'on font certains le jour de vendredi, ils lèvent leurs jambes. On dirait qu'ils marchent sur des... Sur quoi? Voilà. On dirait qu'ils marchent sur des chasses et ils commencent à lever leurs pieds devant les gens et dérangent les croyants. Ça, c'est pas permis. Là où s'arrête l'assemblée, tu t'installes là. Tout comme aussi, si quelqu'un a quitté son assemblée, tu peux pas prendre sa place jusqu'à ce qu'il revienne. Et ça, c'est une parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit que celui qui quitte une assemblée, un emplacement dans une assemblée, personne ne peut prendre sa place jusqu'à ce qu'il revienne. Sauf si tu l'autorises, tu te dis vas-y, installe-toi à ma place. Tout comme on peut pas se séparer entre deux personnes qu'avec leur autorisation. Bon, sauf s'il y a bousculade et qu'il n'y a pas de place, là c'est clair qu'on va le faire, on n'aura pas le choix. D'accord ? Et faire de la place dans notre petite assemblée à ceux qui viennent s'installer, ou dans le cas des sœurs, à celles qui viennent s'installer, de leur faire de la place, de telle sorte qu'elles puissent s'asseoir et trouver de la place. Et c'est un ordre divin. Allah Azza wa Jalla dans le Coran, dans la sourate Al-Mujad, la sourate, la polémique, la discussion, dit « Ya ayyuhalladhina amanu, ya ayyuhalladhina amanu, idha qila lakum tafassahu fil majalisi, fafsahu yafsahillahu lakum. » Oh, vous les croyants, s'il vous est demandé de faire place dans vos assemblées, faites place aux gens. Et Allah Azza wa Jalla vous mettra à l'aise dans le paradis. Regardez la récompense. Également le salut. Quand arrive, le prophète dit « Idha intaha ahadukum ila majlis falyusallim » Quand tu arrives à l'assemblée, salue l'assemblée. Et quand tu les quittes, pareil. Montre-toi respectueux dans la manière de parler. Écoute attentivement ce qui est dit. Si tu as un commentaire à faire, fais-le après que l'orateur ait terminé et respecte son point de vue dans le cas où tu n'es pas d'accord avec lui et exprime-toi correctement et apprends ce qu'on appelle « fennul hiwar » l'art de la discussion. Et il y a une erreur que nous on fait souvent. C'est un défaut que beaucoup d'entre nous ont. Quand un frère parle, qu'est-ce qu'on lui fait? Je vais te couper une minute. On fait souvent ça. Ça, c'est pas du respect, ça. Quand un frère parle, laisse-le terminer. Quand il a terminé, prends la parole et dis ce que tu as envie de dire. On a souvent cette habitude. Dès que le frère commence à parler, il explique. Je te coupe une minute. Je voudrais dire ceci, cela. Sauf si, bien sûr, lorsqu'il parle, il fait une erreur dans un verset ou dans un hadith. Là, c'est autre chose. On arrive, inshallah. Vers la fin, parce que je vois qu'on nous envoie des signaux. Après, vous avez vu, les lumières, elles sont éteintes exprès, justement, pour nous dire, il est temps que... Hein. Aussi, les discussions particulières. Par exemple, on est à trois dans une assemblée. Le prophète déconseille vivement de parler deux ensemble, de chuchoter entre nous, en la présence d'une troisième personne. Sauf si on est nombreux. Parce que si on parle à deux, seul, je murmure dans ton oreille, tu murmures dans la mienne, on rigole, on discute, il y en a un qui est près de nous, c'est vexant et c'est dérangeant pour lui. Sauf si on est nombreux. Tout comme aussi, entre dans cette règle aussi, ceux qui utilisent une autre langue que celle comprise par l'assemblée. Ça aussi, c'est un manque de respect pour ceux qui sont présents, sauf si celui qui était près de vous ne connaît pas donc la langue parlée par tout le monde. Et on arrive vers la fin, inshallah, ne pas oublier, lorsqu'on termine notre assemblée, c'est ce qu'on va faire dans quelques instants, c'est ce qu'on appelle kafaratul majlis, l'invocation pour expier notre assemblée. Le prophète d'ailleurs, sallallahu alayhi wa sallam, dit à ce sujet que celui qui assiste à une assemblée dans laquelle probablement des propos futiles ont été évoqués, eh bien qu'il dit cette invocation et après quoi il lui sera pardonné. Quels sont les bienfaits? Ou avant ça, certains compagnons, lorsqu'ils se séparaient d'une assemblée, ils récitaient la sourate le temps, al-asr. Ça, c'est une sunna abandonnée de nos jours. Ils récitaient la sourate le temps, al-asr, avant de se quitter. Et je termine, inshallah, par quelques bienfaits de ces assemblées de foi. La première chose, c'est que, bien entendu, toute personne qui s'assit dans une assemblée de rappel, que ce soit à la maison avec quelques frères, ou laisse rentrer, ou dans une mosquée, ou dans un centre, ou dans une classe, là où il y a un rappel, eh bien, cette personne qui s'assied avec eux ou avec elle ne sera jamais perdant ou perdante. Deuxièmement, Allah Azza wa Jal les citera avec les meilleurs honneurs. Troisièmement, la clémence et la sérénité descendent sur eux. Quatrièmement, les péchés sont pardonnés. Et Inch'Allah, les nôtres seront pardonnés dans quelques instants, Inch'Allah, qu'on se séparera. Aussi, Satan est chassé et banni. Il est chassé et expulsé parce que Satan ne s'assied jamais dans des assemblées où on parle d'Allah Azza wa Jal. Il ne supporte pas ça. Par contre, les assemblées où on parle d'autre chose, il est présent pour nous attirer. Aussi, nous sommes en train de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. L'assemblée aussi, quelque part, allège nos soucis et nos malheurs et apaise nos cœurs. Et le plus important également, c'est que ces assemblées illuminent nos cœurs, nos visages et nos cœurs par la foi et le rappel. Et on s'élève en degré auprès de lui subhanahu wa ta'ala. Alors j'espère, inshallah, que cette assemblée nôtre fait partie de ces assemblées. Et je m'invite à moi-même et j'invite tous mes frères et sœurs à participer ou à organiser entre eux des assemblées de la foi pour nous éduquer, pour renforcer notre foi, pour éduquer nos âmes, pour les purifier et s'élever auprès d'Allah Azza wa Jal. Et c'est ici que je termine cette conférence en vous remerciant tous et toutes pour votre patience. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين يا لوكازيون je vais quand même réciter sourate al-asr parce qu'on en a parlé il y a quelques instants. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر et qu'Allah vous récompense une récompense inchallah également. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.